France Culture, il est 18h, bonsoir à toutes et à tous. Édition spéciale, donc vous venez de l'entendre ce soir jusqu'à 19h, consacrée aux attentats de Bruxelles. Dans un instant, avec Sophie Delpont et la rédaction de France Culture, nous allons revenir sur ce qui s'est passé ce matin, les premiers éléments de l'enquête, les réactions nombreuses à travers le monde. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à la dimension européenne de ces attentats, ceux de ce matin comme ceux qui les ont précédés. L'Union européenne doit-elle renforcer sa coopération dans la lutte contre le terrorisme? Nous en discuterons avec Juan López Aguilar, il est eurodéputé espagnol, Philippe Hayez, spécialiste des questions de renseignement, et la rédactrice en chef du site d'information européenne Contexte, Clémentine Forissier. Mais on commence tout de suite cette édition spéciale avec vous, Sophie Delpont. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La Belgique en état d'alerte maximale depuis ce matin. Plus de 30 morts et plus de 230 blessés sur les lieux des deux attentats. À l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem tout d'abord, juste avant 8h, et puis près d'une heure plus tard, une autre explosion dans le métro, à la station Malbec, dans le quartier européen. Le groupe État islamique revendique ces attentats. Un suspect serait traqué par la police. Sécurité renforcée en Europe et aux États-Unis. Niveau d'alerte maximal ce soir, notamment donc sur les sites des deux centrales nucléaires belges. Quel est le niveau exact de la menace pour ces sites ultra-sensibles? À suivre les explications de Véronique Rebeyrotte. Et puis le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, annonce aujourd'hui le déploiement de 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en France. Dans les faits, peut-on encore monter d'un niveau de sécurité? Explication, analyse de Catherine Dutu dans ce journal. Le nombre des victimes continue d'augmenter depuis les attentats qui se sont perpétrés ce matin à Bruxelles. Il y aurait probablement une vingtaine de morts et 106 blessés dans le métro, au moins 14 morts et 92 blessés à l'aéroport selon les pompiers sur place. Nous allons tout de suite rejoindre notre correspondante à Bruxelles, Jona Hochstein. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante en direct de la capitale belge. Quelles sont les dernières précisions ce soir sur le déroulé de ces attaques?
Alors il est 7h50 quand deux explosions retentissent dans le hall de départ à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem. Un attentat suicide, confirme plus tard le procureur fédéral. Des vitres sont soufflées, une partie du plafond s'est écroulée, des corps jonchent le sol. Un peu après 9h, c'est une autre déflagration qui retentit, cette fois-ci en plein cœur du quartier européen, dans une rame de métro à la station Malbec. Une bombe, selon la STIB, la société bruxelloise de transport. Les photos de la rame de métro éventrée font le tour de la toile. Les usagers, sous le choc, quittent la station plongée dans la pénombre la plus totale. Des attentats coordonnés à une heure de grande affluence qui visaient donc à faire le plus de victimes.
Et Johanna Hochstein, où en est-on sur l'avancée de l'enquête?
Alors certains médias ont diffusé une photo prise par des caméras de surveillance à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. On y voit deux hommes habillés en noir pousser un chariot avec des bagages et un troisième homme avec un chapeau. Alors les deux premiers hommes seraient morts en faisant exploser leur ceinture d'explosifs. Le troisième homme serait lui activement recherché. Un autre homme serait en fuite, l'homme des attentats du métro de Schaerbeek selon les médias belges. Plusieurs perquisitions sont en cours dans la région bruxelloise et on attend d'une minute à l'autre une communication du parquet.
Merci beaucoup, Johanna Hochstein, notre correspondante à Bruxelles. Vous étiez en direct sur France Culture. Le nombre des victimes continue d'augmenter depuis ces attaques. Selon le maire de Bruxelles, il y aurait probablement une vingtaine de morts dans le métro. Effectivement, on en a parlé à l'instant. Dans l'esprit des habitants, c'est la sidération après donc ces explosions, le bilan qui s'alourdit. Ce matin, Serge Birenbaum était à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem vers 8h. On écoute son témoignage.
On a vu juste une explosion, on a eu un gros flash de lumière et tout le métro qui s'est explosé, les fenêtres nous sont tombées dessus, les portes se sont ouvertes. Et là tout le monde s'est jeté sur le sol, il y a eu une deuxième explosion.
Deuxième explosion sur le métro.
Et dans le métro même ou dans la station?
J'étais dans le premier wagon qui était en train de repartir, donc j'ai pas vu. Je sais pas d'où venait la bombe exactement.
Et comment vous allez vous?
Okay.
Donc témoignage d'Anna qui elle se trouvait dans le métro, le lieu de la deuxième attaque. Un petit peu plus tôt, Serge lui se trouvait à l'aéroport quand a explosé la première bombe.
Je me suis dirigé vers les toilettes avant de passer le contrôle de sécurité. Donc au moment où j'entrais dans les toilettes, j'ai entendu deux déflagrations à 30 secondes d'intervalle.
Tout a tremblé alors, c'est ça hein?
Oui, il m'a fallu un temps pour réaliser ce que c'était. Bon, c'était un bruit sourd et puis j'ai vu que le plafond commençait à trembler, qu'il y avait des morceaux du plafond qui tombaient. Donc j'ai eu beaucoup de chance puisqu'au moment où je suis sorti, j'ai vu que du côté de la toilette des dames, le plafond était complètement effondré. Donc probablement sur les gens qui étaient là, il y avait vraiment beaucoup de monde dans le hall des départs à l'aéroport ce matin. Donc il y avait beaucoup de fumée, il y avait une odeur très forte de poudre et donc il y avait de la poussière, c'était difficile de voir en fait.
Voilà, Serge qui était ce matin sur le site de l'aéroport international de Bruxelles. Il témoignait avec nos confrères de la RTBF.
Et depuis, on s'en doute, la ville de Bruxelles est totalement bouclée, Sophie.
Oui, les autorités ont demandé aux habitants de limiter au maximum tout déplacement, de ne pas aller chercher leurs enfants à l'école à la mi-journée. Antoine Marette, vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Bruxelles. Alors, quelle est la situation à cet instant ?
Eh bien écoutez, quand on se promène dans les rues de Bruxelles ce soir, ce qui frappe, c'est le calme, en particulier dans le quartier européen où a eu lieu la troisième explosion au métro de Malbec. Pendant toute la matinée, les employés sont restés dans les bureaux, c'était un ordre des autorités. Beaucoup ont tenté de joindre leurs proches pour prendre ou donner des nouvelles. Mais à partir de la fin de matinée, les réseaux téléphoniques étaient saturés. Les réseaux sociaux ont donc pris le relais. Et notamment Facebook qui a lancé le même dispositif que lors des attentats de novembre à Paris, le fameux safety check pour ses membres localisés dans la capitale belge. C'est grâce à cela que beaucoup de Bruxellois ont pu prendre des nouvelles de leurs proches. Les télévisions ont également tourné à régime, la radio également avec des éditions spéciales. Vivacité, l'équivalent de France Bleu chez nous, a lancé une émission où les auditeurs témoignaient beaucoup d'inquiétudes, de colère, de sidération à l'antenne, mais aussi d'appel à ne pas faire d'amalgame. Le quartier européen de Bruxelles a finalement été évacué dans l'après-midi. On a vu défiler des employés des institutions européennes avec leurs costumes et leurs badges, et désormais, seules les voitures de police et les militaires quadrillent le quartier. Dans le reste de la ville, les transports publics qui étaient fermés depuis ce matin rouvrent au compte-gouttes. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays. Le roi, chose très rare, va s'exprimer ce soir à 19h à la télévision. La ville et le pays sont traumatisés. Bruxelles n'avait pas connu de vague d'attentats comme en France dans les années 80 et 90. Même si les Belges étaient préparés à cette éventualité, ce qu'ils redoutaient s'est finalement produit ce matin. Et certains théâtres ont déjà annoncé qu'ils n'annuleraient pas leur représentation de ce soir. Bruxelles est donc sous le choc, mais Bruxelles n'est pas à genoux.
Merci Antoine Marette, notre envoyé spécial à Bruxelles ce soir. L'aéroport international de Bruxelles, Zaventem, où ont eu lieu les premières explosions ce matin, est fermé jusqu'à 6h demain matin. Pourquoi la Belgique est-elle frappée de cette manière? Beaucoup de questions ce soir et notamment comment ce pays a-t-il pu devenir, notamment le quartier de Molenbeek, un terreau aussi fertile pour le djihadisme. Hassiem El Difraoui est politologue et l'auteur notamment de Al-Qaïda par l'image. Il répond au micro de Florence Turm.
Après l'arrestation d'Abdeslam, les policiers belges se sont bien rendus compte qu'il y avait dans son entourage des gens qui n'étaient pas sur leur radar et on a trouvé des détonateurs dans un appartement. Donc il y avait quand même de fortes risques qu'il y avait encore des cellules cachées quelque part qui pouvaient passer à l'action, qui est malheureusement arrivé aujourd'hui. Mais là, il y a des questions énormes qui vont se poser et au niveau de la coopération, au niveau de l'efficacité des services belges, au niveau de la coopération en Europe. Je pense, il me semble, il ne faut pas faire dans la politesse. Il faut vraiment mettre ça à plat pour éviter ce genre d'attentat dans l'avenir.
Comment comprendre que la Belgique soit devenue une forme de terreau pour les djihadistes de Daesh ?
La Belgique est d'une certaine façon un état très faible, voire ce que les Anglais appellent une « failed state ». Le sujet politique depuis 30 ans en Belgique, c'est en fait la lutte du pouvoir entre flamands et wallons, qui a immobilisé la politique belge quelquefois pendant des années et qui a surtout pas contribué à faire, à exécuter une politique d'intégration qui faisait du sens. C'est-à-dire, on s'est dit, la communauté maghrébin, ça s'est autogère, le problème du djihadisme était pas pris très au sérieux, le problème de la prévention du djihadisme et de la déradicalisation n'était pas pris réellement au sérieux. Il faut toujours se rappeler aussi que le djihadisme à Molenbeek n'existe pas depuis hier. L'attentat, de préparation du 11 septembre 2001, l'assassinat de Ahmed Shah Massoud, qu'on appelle souvent aussi le lion de Panjshir, le grand rival des talibans, donc d'Al-Qaïda, était exécuté par une fausse équipe de télé qui en fait cachait des explosifs dans leur caméra, qui venait de Molenbeek. 2001 et 2016, ça fait quand même 15 ans qu'on sait que Molenbeek, c'est un foyer de djihadisme et c'est des faits qui parlent pour eux-mêmes.
Voilà l'analyse d'Assiem El Difraoui, politologue, auteur entre autres d'Al-Qaïda par l'image. Il répondait aux questions de Florence Turm.
Et la question de la Belgique confrontée au terrorisme, ce sera un des thèmes, si ce n'est le principal thème abordé demain matin dans les matins de France Culture de Guillaume Herner. Suite de cette édition spéciale consacrée aux attentats de Bruxelles qui va nous mener jusqu'à 19h, Sophie Delpont.
Oui, pour les chefs d'État européens, il n'y a pas de doute, c'est bien l'Union européenne qui était visée par ces attentats ce matin. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a déploré un jour très triste pour l'Europe après ces attaques de Bruxelles. Bruno Cadenne, bonsoir. Ces attaques qui ont fait donc une trentaine de morts.
Les pleurs de Federica Mogherini sont le symbole des réactions européennes après ces attaques au cœur de la capitale de l'Europe. La chef de la diplomatie européenne, au bord des larmes, a dû interrompre sa conférence de presse à Amman, en Jordanie. Et la réponse doit passer par l'unité de l'Europe, martèle Jean-Claude Juncker. Un message relayé sur tout le continent. En Allemagne, Angela Merkel parle de combat contre les valeurs de l'Europe. Son ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, affirme que l'Europe se tient debout de manière solidaire. Son confrère de l'intérieur, Thomas de Maizière, estime que les terroristes ont visé les valeurs de l'Union européenne. Une opinion partagée par le président italien, Sergio Mattarella. Pour les terroristes fondamentalistes, ils s'en prennent à la culture, à la liberté, à la démocratie. Et la réponse ne pourra venir que dans une solide unité des pays de l'Union européenne. Toujours dans les pays du Sud, en Espagne, Mariano Rajoy affirme que l'unité des démocraties européennes doit l'emporter sur la barbarie. Au Portugal voisin, le président Marcelo Rebelo de Sousa estime que c'est dans ces moments-là que l'on se rend compte ce qui unit les Européens et que c'est plus fort que ce qui les divise. En Europe du Nord, les responsables mettent en avant la défense des sociétés ouvertes. Nous n'accepterons jamais que ces terroristes attaquent nos sociétés ouvertes, déclare le Premier ministre suédois Stefan Löfven, alors que pour son homologue néerlandais Mark Rutte, nous resterons ce que nous sommes, une société ouverte et démocratique. Ce sont d'ailleurs les termes exacts employés dans un communiqué commun par les dirigeants européens.
Merci Bruno Cadenne pour ces précisions. Les réactions affluent du monde entier après ces attaques sanglantes. Depuis le Caire, l'université Al-Azhar, la prestigieuse institution de l'islam sunnite basée en Égypte, condamne fermement les attentats. L'université estime que ces attaques sanglantes violent les enseignements tolérants de l'islam dans un communiqué.
Et Londres déconseille à ses ressortissants de se rendre à Bruxelles, sauf raison impérative.
Après ces attaques qui ont frappé la capitale belge, une annonce aujourd'hui du Premier ministre britannique David Cameron. La police britannique a renforcé sa présence dans les endroits névralgiques du Royaume-Uni, dans les transports pour protéger la population, annonce de son côté le chef de la section antiterroriste de la police britannique. À Londres, notre correspondant Franck Madvon.
Londres a renforcé la présence policière dans les lieux emblématiques de la capitale, notamment les grands aéroports de Heathrow et Gatwick. Il s'agit surtout de rassurer la population, car les autorités ne disposent d'aucune information suggérant une attaque imminente. Le niveau d'alerte terroriste reste à 4 sur une échelle de 5, ce qui signifie qu'un attentat est hautement probable. David Cameron a présidé ce matin une réunion de crise avec tous les hauts responsables de la sécurité du pays. Le Premier ministre a adressé ses condoléances à son homologue belge, Charles Michel. Il condamne des attentats sauvages et effroyables. Ces attaques, dit-il, ont eu lieu en Belgique, ça aurait pu être en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne ou ailleurs en Europe. Nous devons rester unis face à ces terroristes épouvantables et nous assurer qu'ils ne pourront jamais gagner. Les attentats à Bruxelles rappellent ici les attaques dans les transports en commun de Londres le 7 juillet 2005. 4 kamikazes avaient tué 52 personnes. Depuis, le Royaume-Uni n'a pas connu sur son sol d'attentats majeurs, ce qui est dû à une conjonction de facteurs, les progrès des services de renseignement, le recours aux citoyens, aux populations musulmanes en particulier, pour identifier les individus potentiellement dangereux, ou encore le faible nombre d'armes à feu en circulation.
Franck Madvon, notre correspondant à Londres. Une crainte majeure en Belgique ce soir, la sécurité des centrales nucléaires. Le niveau d'alerte antiterroriste est passé à un niveau maximal, niveau 4 pour l'ensemble du pays. La sécurité est renforcée autour des deux centrales dont le personnel non nécessaire à l'exploitation a été évacué aujourd'hui. Et Véronique Robérotte, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ces derniers mois, les renseignements ont identifié des menaces très claires.
Oui, et l'événement le plus récent fait suite aux attentats de Paris. Dans le cadre de l'enquête ouverte en Belgique sur les auteurs des attentats du 13 novembre, les services belges de l'antiterrorisme sont retrouvés en possession d'un enregistrement vidéo montrant les allées et venues d'un haut responsable du secteur nucléaire belge, une vidéo d'une dizaine d'heures qui montre en mode statique la maison du directeur du programme de recherche et de développement nucléaire belge, un physicien. D'autres images, cette fois filmées par une caméra de surveillance, montrent deux hommes venus récupérer leur caméra placée discrètement donc dans un buisson en face de la maison. À quoi devait servir ce film retrouvé chez l'épouse de Mohamed Bakali, arrêté à Bruxelles après les attentats de Paris et soupçonné d'être l'un des logisticiens de la cellule de Molenbeek. Un projet de kidnapping a été évoqué, kidnapping du phénicien qui aurait été forcé de fournir alors à ses ravisseurs de l'uranium. En faible quantité, cet uranium aurait pu servir à fabriquer une bombe sale. Selon des experts, l'État islamique disposerait des connaissances nécessaires pour concevoir une telle bombe. Avant cela, la presse belge avait révélé aussi la possibilité d'infiltration de sites nucléaires par des djihadistes. Le beau-frère d'un djihadiste combattant en Syrie a bien failli devenir l'un des principaux conducteurs d'une centrale nucléaire belge. C'était en 2013. La société Electrabel, filiale d'Engie, a détecté à temps des signes de radicalisation quand l'homme a refusé de serrer la main de sa supérieure hiérarchique. Et puis un an plus tard, en août 2014, un sabotage dans la centrale de Doel a entraîné l'arrêt d'un réacteur. À ce jour, 20 mois donc plus tard, les auteurs n'ont toujours pas été identifiés.
Merci Véronique Robérotte. Alors qu'à l'instant, la police belge lance un avis de recherche pour tenter de retrouver un suspect impliqué dans les attentats de ce matin à l'aéroport de Bruxelles-Saventem et dans une station de métro de la capitale. Ces attentats donc qui ont fait au moins 30 morts. La police a diffusé un portrait de cet individu vêtu de blanc, portant un chapeau et l'on le voit poussant un chariot à bagages à l'aéroport. La police qui demande au public de lui communiquer tout renseignement susceptible de la mettre sur une piste. Avec l'Europe ce soir donc qui est sous le choc avec ces attentats, on a vu les bus, les tramways, le métro ont été à l'arrêt complet. Ça repart au compte-gouttes, nous disait tout à l'heure notre envoyé spécial Antoine Maret. En France, Bernard Cazeneuve annonce lui le déploiement de 1600 policiers supplémentaires sur des lieux stratégiques. Catherine Dutu, bonsoir.
Bonsoir.
Alors est-il possible aujourd'hui de renforcer encore la sécurité en France?
Oui, mais à condition de dresser des priorités et plutôt que de déploiement de 1600 policiers et gendarmes, il faudrait plutôt parler de redéploiement des forces en présence. Les explications de Nicolas Comte, secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO.
Ces 1600 policiers et gendarmes n'étaient pas dans des casernes occupées à ne rien faire. Ce sont des collègues qui étaient occupés à un certain nombre de missions, qui pouvaient être des missions de lutte anti-délinquance et qui tout d'un coup se voient sur la journée affectés à d'autres missions, affectés à la protection de gare, affectés à la protection d'aéroports, par exemple. Nos collègues qui luttent contre l'immigration clandestine à la frontière italienne dans le sud de la France, tout d'un coup se revoient redirigés sur l'aéroport de Nice. Donc c'est le choix de faire porter le gros d'un certain nombre de forces de police sur de nouvelles zones à protéger.
Et en Ile-de-France, 650 CRS ont ainsi été redéployés ce matin vers des missions Vigipirate pour renforcer la sécurité dans les aéroports, dans les gares et les transports en commun. Les transports pour lesquels Bernard Cazeneuve a annoncé des mesures spécifiques. L'accès aux zones publiques des transports sera désormais uniquement réservé aux personnes munies d'un billet et ou d'un titre d'identité. Des mesures de contrôle et de palpation seront systématisées. Des messages de prévention seront également diffusés. Et puis en plus des gendarmes et policiers réaffectés dans le cadre de Vigipirate, des patrouilles de militaires seront réorientées sur les sites sensibles de transport. Reste en suspens la question de l'utilité de tout ce dispositif. Ne rien faire prêterait bien sûr le flanc aux critiques, mais les experts du renseignement et de la sécurité rappellent l'utilité du renseignement plutôt qu'une simple sécurisation subjective avec des policiers, gendarmes ou militaires en faction devant des sites sensibles. La semaine dernière d'ailleurs, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian proposait de définir les missions des 10 000 militaires engagés dans l'opération Sentinelle, plus de patrouilles que de gardes statiques devant des points sensibles. Mais cela, c'était avant les attentats de Bruxelles.
Et Bernard Cazeneuve demande également un renforcement de la coopération des renseignements gouvernements européens.
Le ministre de l'Intérieur qui appelle de nouveau le Parlement européen à adopter le PNR, le Passenger Name Record, un fichier européen des données personnelles des voyageurs aériens. L'objectif, c'est d'assurer une meilleure traçabilité des passagers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Des eurodéputés réclament eux encore des garanties sur le traitement des données collectées dans cet éventuel PNR. Il est temps de l'adopter, a répété le Premier ministre devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Manuel Valls qui s'est directement adressé au groupe socialiste et écologiste du Parlement. Chacun doit prendre ses responsabilités.
Merci beaucoup Catherine Dutu pour tous ces éléments. Alors qu'en ce moment donc l'Allemagne renforce ses contrôles aux frontières, aujourd'hui il signalait également à l'instant que seuls 2 trains Thalys ont circulé dans la journée.
Ouais, je précise que s'agissant de la question du renforcement de la coopération entre les services de renseignement européens, ce sera justement l'objet de notre discussion d'ici une dizaine de minutes. En France, à nouveau une réunion d'urgence, Sophie, s'est tenue ce matin à l'Élysée en présence de François Hollande, Manuel Valls et des ministres concernés.
Oui, et le chef du gouvernement s'est montré solidaire de la Belgique et très offensif sur la question du terrorisme, Manuel Valls.
Je veux exprimer ma solidarité à l'égard du gouvernement belge, de nos amis belges. Nous sommes en guerre. Nous subissons depuis plusieurs mois en Europe des actes de guerre. Et face à cette guerre, il faut une mobilisation de tous les instants. Et nous avons toujours dit que la menace était sans doute aujourd'hui encore plus élevée que celle que nous connaissions avant les attentats de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre. Et ce qui compte, c'est que nos forces de sécurité, nos forces armées, nos services de renseignement soient particulièrement mobilisés face à cette menace.
Le Premier ministre Manuel Valls lors de la réunion d'urgence ce matin à l'Élysée. Frédéric Saïs, bonsoir.
Bonsoir Sophie.
Vous étiez, vous, à l'Assemblée nationale cet après-midi. Alors on a senti une gravité, une solidarité à l'égard du peuple belge, mais le délai de décence avant la reprise des débats et des controverses politiques n'a pas été très long.
Oui, c'est même un délai de décence quasi nul qu'il y a eu aujourd'hui. Dès ce matin, le patron du groupe PS à l'Assemblée, Bruno Le Roux, a tiré parti du contexte pour mettre en cause l'opposition. Dans un tweet, il a accusé la droite sénatoriale d'irresponsabilité sur la question de la déchéance de nationalité. L'impression d'une petite querelle politicienne alors que les explosions viennent de survenir. Par la suite, Bruno Le Roux affirmera qu'il n'avait pas encore entendu parler des attentats de Bruxelles au moment de ce tweet et qu'il faisait référence au contexte terroriste en général. Il n'empêche le mal est fait. Plusieurs de ses camarades socialistes lui ont répondu, lui ont fait remarquer une certaine indécence. Au Front National aussi, le deuil et l'hommage n'ont pas prévenu les sorties hasardeuses. Robert Ménard a par exemple ironisé sur le fait que les attaques n'étaient sans doute pas liées aux néo-nazis. Un peu plus tard dans la journée et depuis l'Elysée, François Hollande a appelé à l'unité nationale, au rassemblement face à la barbarie. Alors vous avez l'impression d'avoir déjà entendu tout cela, et bien vous avez raison. Ce qu'on observe, c'est une banalisation du temps de la trêve politique. Souvenez-vous, en janvier, après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher, les députés font bloc pendant plusieurs jours. Une Marseillaise impromptue est lancée a cappella dans l'hémicycle après une minute de silence. Elle est reprise en chœur par toute l'Assemblée. En novembre déjà, cette période de décence et d'unité est beaucoup plus courte, vite ébréchée. Les attentats ont lieu le vendredi. Dès le mardi suivant, aux questions au gouvernement, les députés de droite interpellent violemment le gouvernement. Une séance en foire d'empoigne. Et puis ce matin, ces attentats, certes en dehors du territoire national, mais à Bruxelles, juste après l'arrestation du principal suspect en fuite des attaques de Paris, eh bien l'unité nationale n'a pas existé de la journée, si ce n'est sur la feuille du discours de François Hollande. La minute de silence à l'Assemblée au Sénat n'a pas fait le poids face aux débats qui lui ont succédé, comme si le monde politique, qui était en janvier tétanisé par la situation inédite, s'était progressivement, hélas, habitué, l'avait banalisé, peut-être à l'instar de chacun d'entre nous.
Suite de notre édition spéciale consacrée aux attentats de Bruxelles, qui va nous mener jusqu'à 19h. Et dans ce contexte, Sophie Delpont, le vote sur la déchéance de nationalité prend une autre résonance.
Oui, c'était au Sénat. La majorité de droite a voté la révision constitutionnelle annoncée par François Hollande après les attentats du 13 novembre dans une version différente de celle adoptée par les députés. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Sophie.
Vous étiez au Palais du Luxembourg cet après-midi. Ce vote est sans surprise.
Oui, même si c'était assez serré, c'était tout à l'heure à 16h30 dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg.
La séance est reprise. Voici les résultats du scrutin sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle de protection de la nation. Pour l'adoption, 176 contre 161, le Sénat a adopté le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation.
Les sénateurs ont donc voté un texte qui n'est pas le même que celui des députés, puisqu'il autorise la déchéance de la nationalité uniquement pour les terroristes binationaux. Dans ces conditions, a priori, la réforme est condamnée. Enfin, Pas tout à fait, pas encore, selon le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Jean-Marie Le Guen veut croire que les attentats de ce matin à Bruxelles pourraient peut-être encore, on ne sait jamais, changer la donne.
Chacun sera amené dans les jours qui viennent à préciser véritablement quelles sont ses intentions et quelles sont ses responsabilités. Je ne considère pas que ce débat est clos aujourd'hui.
Mais on se demande bien comment les positions des députés et sénateurs pourraient converger. En tout cas, il y a un point non négociable pour le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
Il y a 4 points de différence sur l'article 2. Il peut y en avoir 3 qui soient négociables, mais on n'est pas dans une discussion de marchand de tapis. La patridie, ça n'est pas possible, d'autant plus que, encore une fois, la patridie n'a pas d'effectivité. Vous créez un apatride et vous le gardez en France. Il n'est pas expulsable.
Pas d'apatride, la déchéance de la nationalité uniquement pour ceux qui ont une autre nationalité. C'est précisément ce que ne peut pas accepter la majorité de gauche à l'Assemblée. Dans ces conditions, pour le sénateur socialiste et maire de Lyon, Gérard Collomb, il ne faut pas s'entêter, il faut jeter l'éponge.
On ne peut pas continuer, si vous voulez, à donner un spectacle comme on le donne, où finalement chacun joue un jeu politique en essayant de rejeter la faute sur l'autre. Ça ne me semble pas à la hauteur des problématiques que connaît aujourd'hui notre pays.
La balle est désormais dans le camp du chef de l'État. François Hollande doit rencontrer a priori demain le président de l'Assemblée et le président du Sénat avant d'annoncer sa décision.
Stéphane Robert. Et dans ce contexte, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'exprimait, elle, pour la semaine de la presse à l'école. Dans ce contexte de menaces d'attentats, elle encourage les parents à la plus grande prudence.
J'ai demandé à tous les établissements scolaires qui avaient prévu des déplacements scolaires vers Bruxelles de les annuler. J'ai demandé également à ceux qui seraient d'ores et déjà à Bruxelles de rester confinés dans les établissements où ils se trouvent en ce moment. Donc évidemment, les mesures de sécurité sont celles que nous prenons en cas d'attentat sur notre propre territoire. Il faut être le plus vigilant possible et on vous en dira plus dès qu'on en saura plus.
Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, au micro d'Hakim Kasmi. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, quelques grands titres à développer également. Nicolas Sarkozy est sous la menace d'un procès. La Cour de cassation de Paris valide les écoutes téléphoniques dans l'affaire dans laquelle il est mis en examen pour trafic d'influence et corruption. Il est soupçonné d'avoir voulu connaître l'avancement de l'instruction dans le dossier Bettencourt avec l'aide de Gilbert Azibert, alors magistrat à la Cour de cassation, et par l'entremise de son avocat, maître Thierry Herzog. Et Nicolas Sarkozy qui contestait ses écoutes en les déclarant non conformes. Et la Cour de cassation permet donc, elle, de valider l'ensemble de la procédure, Armel Balagog.
Effectivement, la validation des écoutes valide en fait l'ensemble de la procédure dans ce dossier. Les magistrats ont bouclé leurs investigations et leurs instructions. Il ne leur reste plus qu'à rédiger leur ordonnance finale, celle qui pourrait renvoyer Nicolas Sarkozy devant un tribunal correctionnel. Elle ne devrait pas intervenir avant le mois de juin. La question est maintenant de savoir quand sera cet éventuel procès, s'il est possible qu'il se tienne avant la primaire de la droite en novembre prochain, ou avant l'élection présidentielle de mai 2017. C'est bien sûr tout l'enjeu pour Nicolas Sarkozy, candidat non encore officiel mais tout de même probable à cette élection. L'ancien président de la République se retrouve désormais avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, car des deux dossiers dans lesquels il est à ce jour mis en examen, l'affaire des écoutes et de la ligne téléphonique de Paul Bismuth, est la plus avancée, la seule susceptible de déboucher sur une audience judiciaire avant ses échéances électorales. Mais selon son avocat Patrice Spinozzi, le combat n'est pas encore terminé. Il envisage un éventuel recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, toujours pour contester la légalité de ses écoutes. En attendant, certains dans le camp politique de l'ancien président ne cachent pas leur inquiétude, comme ce proche de Nicolas Sarkozy qui parle de l'affaire potentiellement la plus dévastatrice pour lui.
Armel Balogog. Et puis en Russie, la pilote ukrainienne Nadia Savchenko a été condamnée aujourd'hui à 22 ans de prison. Son procès dans la petite ville russe de Donetsk a duré 2 jours. La pilote ukrainienne, députée et véritable héroïne dans son pays, est accusée par la Russie de complicité dans le meurtre de 2 journalistes russes pendant des combats dans le Donbass en juin 2014. Et puis un discours historique à la Havane aujourd'hui, en visite à Cuba. Barack Obama s'est adressé au peuple cubain sur l'avenir des relations entre les deux pays. Le discours très attendu a été retransmis depuis le Théâtre National de la Havane. Un discours pour enterrer le dernier vestige de la guerre froide.
Ma conviction, c'est que tout le monde doit être égal devant la loi et que chaque enfant a droit à la dignité qui va avec l'éducation, le droit à la santé, à l'alimentation et au logement. Tous les citoyens doivent pouvoir s'exprimer sans crainte, se réunir, critiquer leur gouvernement et manifester pacifiquement. Et on devrait exclure partout la détention arbitraire de ceux qui exercent ces droits. Je suis convaincu que chacun doit pouvoir pratiquer sa religion pacifiquement et publiquement. Et oui, je crois que chacun doit pouvoir choisir son gouvernement avec des élections libres. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus, mais je suis convaincu que ces droits sont universels. Ce sont ceux des Américains, des Cubains et des citoyens du monde entier.
Barack Obama, le président américain depuis La Havane cet après-midi. Traduction assurée par Frédéric Carbone, notre envoyé spécial à Cuba. Il est 18h30 sur France Culture. On continue cette édition spéciale après les attentats de Bruxelles avec vous, Hervé Gardette.
Oui, la capitale belge, je vous le rappelle, visée par plusieurs attaques ce matin à l'aéroport international de Zaventem, dans le hall des départs, puis une heure plus tard dans le métro à la station Malbec, alors qu'il est le bilan fait état donc d'une trentaine de morts, près de 200 blessés. C'est la Belgique qui était visée. C'est aussi peut-être la capitale de l'Union européenne. On ne connaît évidemment pas les intentions exactes des terroristes, mais on peut noter que leur cible avait toute une dimension internationale, l'aéroport, mais aussi le métro, puisque la station visée se trouve dans le quartier européen de la ville. Alors l'Europe cible des terroristes. Il faut d'ailleurs rappeler qu'hier, à Bamako, cette fois, des hommes armés ont attaqué un hôtel qui sert de quartier général à la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Alors bien sûr, impossible de faire le lien à cette heure entre ces deux événements, mais voilà qui incite à nous intéresser à la dimension européenne de la lutte contre le terrorisme, aux questions de coopération entre les différents pays membres. Et nous allons le faire en compagnie de plusieurs invités, à commencer par vous, Philippe Ayer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de cours à Sciences Po sur les politiques de renseignement. Vous avez publié l'an dernier chez Odile Jacob « Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie ». Vous étiez auparavant dans une autre vie directeur adjoint du renseignement à la DGSE. Pour discuter avec vous, elle est au téléphone, c'est Clémentine Forissier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef de Contexte.com. C'est le journal en ligne des politiques publiques européennes. Vous vous intéressez à tout un tas de questions politiques et notamment les questions qui ont trait à la sécurité. Et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui à la lumière de ces attentats à Bruxelles. On essaie de joindre deux autres invités, un eurodéputé espagnol, Juan López Aguilar, et une députée belge, Isabelle Durand. On a quelques difficultés à les joindre pour l'instant à Bruxelles. Alors on espère qu'ils auront l'occasion de nous rejoindre dans le cours de cette discussion. Philippe Ayer, je voudrais vous faire peut-être revenir tout de suite sur un sujet qui a été évoqué dans la première partie de cette édition spéciale avec Sophie Delpont, qui est la question du PNR, le Passenger Name Record. Donc je rappelle, c'est un système de collecte de données des passagers aériens, données qui sont ensuite censées être mises à disposition des pays membres une fois que ce dispositif aura été voté par le Parlement européen. C'est un projet qui existe depuis déjà 2012. Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite ?
Parce qu'il y a des réticences, évidemment, au nom de la protection des libertés publiques. Les questions de sécurité, les questions d'enseignement sont toujours l'objet d'un arbitrage entre des moyens juridiques, des fichiers, par exemple, qui sont demandés par les services et qui leur sont parfois octroyés, et des exigences de protection auxquelles veille particulièrement la Cour européenne des droits de l'homme et le Parlement européen en l'espèce, puisqu'il s'agit d'un vote qui n'est pas encore intervenu du Parlement européen.
Clémentine Forissier, il faut savoir que les sociodémocrates, notamment les libéraux et les élus écologistes au Parlement européen, demandent que soit adopté en même temps que ce PNR, puisqu'ils disent aujourd'hui ne plus y être absolument hostiles, mais à condition qu'il y ait dans le même temps un projet sur la protection des données personnelles. Donc comme le dit Philippe Ayer, il y a presque une forme de donnant-donnant, c'est-à-dire oui, d'accord pour qu'il y ait davantage de coopération sur les données personnelles, mais il faut aussi qu'elles soient mieux protégées, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Et en réalité, si on s'intéresse de près au PNR, qui est bloqué depuis 2011, qui pourrait peut-être finalement trouver une issue, puisque là, on parle de la prochaine plénière, on reporte de séance plénière en séance plénière. Là, le problème qui se pose, c'est que tel que c'est présenté, ça permettrait de conserver un certain nombre de données, donc comme les noms, les prénoms, les cartes bancaires, les numéros de passeport de tous les passagers et les compagnies aériennes qui rentrent dans l'Union européenne. Et en fait, les libéraux, les verts et les sociaux-démocrates qui s'opposent à ce projet disent on peut pas conserver absolument toutes les données de tous les passagers. Ils voudraient que ce soit beaucoup plus ciblé sur un certain nombre de personnes qui sont déjà peut-être repérées par les services de renseignement, etc. Et ils s'appuient notamment aussi sur des récentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé en fait en 2014 une directive de 2006 qui permettait de conserver des informations sur les communications de l'ensemble des citoyens. Donc il y a quand même aussi, c'est vrai, des garde-fous juridiques. Et d'ailleurs, il y a un député qui disait la dernière fois « rendez-vous devant la Cour de justice ». Donc ça veut bien dire quand même que... Alors la Cour de justice, elle ne peut pas se saisir comme ça. Hein. Il faut qu'elle soit saisie au sein d'un État membre, etc. Mais voilà, il y a quand même des craintes que, de toute façon, d'un point de vue juridique, ça ne passe pas. Alors, il y a des controverses sur ce sujet. On a vu qu'en France, là, la question du PNR a été remise sur la table quasiment aussitôt après les attentats de Bruxelles par le gouvernement.
Oui, parce que Manuel Valls à l'Assemblée nationale a dit tout à l'heure, il s'est exprimé devant, voilà, il est temps de l'adopter. Il demandait d'ailleurs au groupe socialiste et écologiste du Parlement européen de prendre leurs responsabilités. Sophie Delpont.
Mais développer davantage le PNR, est-ce que ce serait vraiment utile comme moyen de contrer les djihadistes si les djihadistes sont déjà sur place ?
Philippe Payet.
Il n'y a pas un seul instrument. Je crois qu'il faut bien comprendre que, vous avez raison, il y a à la fois une protection accrue contre les flux aériens, flux d'armes, flux cyber, flux d'argent qu'il faut organiser. Et nous ne sommes pas au niveau dans un espace qui est hétérogène comme l'Europe par rapport à cela. Mais aussi, évidemment, assurer une surveillance minimale et respectueuse des droits de l'homme et même de ce qui se passe dans notre territoire. Donc je crois qu'il ne faut pas fixer son attention sur un seul instrument. L'important est de disposer de l'ensemble de la panoplie qui permette de rendre plus difficiles les passages de les flux. Encore une fois, ces flux qui sont des flux menaçants. Bon, et de s'assurer, évidemment, que sur le territoire de l'Europe, qui, encore une fois, est hétérogène, nous avons une protection minimale.
Ce que disait l'eurodéputé PPE, c'est le groupe conservateur au Parlement européen, Arnaud Danjean, après les attentats du mois de novembre à Paris, disait ceci. Quand on voit aujourd'hui qu'un des principaux instigateurs des attentats de Paris a pu se balader entre la Syrie, la Belgique et la France, le PNR aurait pu nous être utile, Philippe Hayet.
S'il a pris l'avion, oui. S'il a pris l'avion, effectivement, pour autant qu'il ait la naïveté de voyager sous son identité connue, et pas sous l'identité d'un djihadiste mort, par exemple, ce qui se fait assez couramment, apparemment, il ne faut pas non plus... Enfin, encore une fois, toute parade, toute mesure appelle une parade. Ce qui est certain, c'est que, non seulement, d'ailleurs, dans la question que vous évoquez de l'échange des données des passagers aériens, il faut que nous accédions avec des garanties, bien entendu, à ces informations, mais je voudrais quand même signaler qu'il y a aussi d'autres décisions qui sont un peu en porte-à-faux avec cette émotion légitime et cette actualité. Un somme d'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui ne concerne pas directement la France, mais qui concerne un dispositif qui s'appelle Safe Harbor, qui est un dispositif d'échange d'informations entre les États-Unis et les États européens, ont fait l'objet d'un certain nombre de condamnations, notamment en Irlande, puisque c'était un recours irlandais par cette Cour européenne des droits de l'homme, et un tel dispositif d'échange de données ne peut pas être mis en œuvre. Donc il faut encore une fois, pas dans l'émotion, c'est toujours facile de répondre au soir d'un attentat, mais il faut que nous revérifions dans nos démocraties, démocratie par démocratie, le bon équilibre entre les restrictions que nous mettons, et nous pourrions parler, enfin, je ne sais pas si vous le souhaitez maintenant, mais aussi des restrictions nationales en France, et notamment du rôle de la CNIL et de ces dispositifs qui sont parfois conçus dans un autre contexte, et des moyens d'action qu'on souhaiterait obtenir de la part de nos services.
Il y a un vote, Clémentine Forissier, qui est prévu donc sur ce PNR, peut-être pour conclure sur ce sujet, parce qu'il y a d'autres outils de coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Mais pour conclure sur ce sujet, Clémentine Forissier, donc vote du Parlement européen au plus tôt au mois d'avril, voire mai. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une très forte pression sur les groupes politiques du Parlement ?
Oui, je pense que la pression est vraiment très forte, mais encore une fois, je peux pas vous assurer que ce sera voté au prochain PNR, parce qu'à chaque fois, c'est repoussé. Donc, ça devait être en janvier, ça devait être en février, là, en mars, ça a finalement pas eu lieu, donc est-ce que ce sera le cas en avril ? Peut-être que les événements d'aujourd'hui vont, je sais pas moi, donner l'envie finalement à certains groupes politiques de céder, parce qu'ils se disent que c'est une mesure parmi d'autres, mais qui peut éventuellement être utile. Je sais pas, juste un petit point, c'est la CJUE, hein, qui est, dont on parle dans toutes ces affaires en fait, qui est de protection
justice.
Des données. Ouais, voilà, c'est ça.
Alors nous a rejoint à présent, alors toujours au téléphone depuis Bruxelles, Isabelle Durand. Bonsoir Isabelle Durand.
Bonsoir.
Vous êtes députée du Parlement de la région Bruxelles-Capitale, ancienne vice-présidente du Parlement européen. Vous avez été en poste comme eurodéputée donc jusqu'aux dernières élections. C'était en 2014. Vous étiez à Bruxelles ce matin. Vous y êtes donc toujours ce soir. Avant peut-être que d'aborder les questions de coopération européenne, je crois que vous avez eu l'occasion de sortir dans votre ville. Est-ce que c'est une ville qui est totalement à l'arrêt à présent et quel est un petit peu votre sentiment à vous après ces attentats?
Ben, disons que la ville, on est en plus un peu assommé parce que, en effet, c'est un attentat d'une dureté incroyable. C'est aussi une ville qui aujourd'hui est restée, chacun est resté un peu cantonné chez soi, mais on ne veut plus revivre ce que nous avons vécu après les attentats de Paris, où il y a eu ce lockdown qui a fait que pendant 2 ou 3 jours la ville était complètement à l'arrêt. Donc à la fois les gens sont un peu atterrés, sidérés, en même temps je pense qu'il y a une volonté de tous d'être solidaire, comme souvent dans les moments d'émotion. Et en même temps, bien sûr, on n'a même pas encore les détails définitifs du nombre de personnes tuées, de personnes blessées et de tout le dégât qu'a entraîné évidemment ces 2 attentats en plein cœur de Bruxelles, non seulement de Bruxelles pour les habitants de Bruxelles, mais aussi en plein cœur de Bruxelles par rapport à l'Europe, la station Malbé qui est à 100 mètres des institutions européennes. Et c'est clair que c'était elle qui était visée au travers de ces 100 personnes qui ont été atteintes dans le métro.
Cette solidarité, Isabelle Durand, justement, puisque c'est aussi une institution européenne qui a été, semble-t-il, visée par ces attentats, est-ce que vous l'attendez également de la part de l'Union européenne et quelle forme devrait-elle prendre, selon vous ?
Alors évidemment qu'on l'attend et qu'on l'espère, et d'ailleurs les messages sont arrivés dès le début de la journée ce matin d'un peu partout, de toutes les capitales européennes, de M. Juncker, de Mme Mogherini, avec beaucoup d'émotion. Donc les chefs d'État se sont exprimés, mais au-delà de ces moments où on transmet des condoléances et de la compassion, c'est vrai que ça interroge ce que nous pouvons ou devons faire ensemble pour apprendre non seulement à vivre avec ce terrorisme, mais surtout pour le combattre et le combattre efficacement. Sachant que la plupart, en tout cas à ce stade, ce qu'on sait de ceux qui sont responsables des attentats, que ce soit ceux du musée juif à Bruxelles il y a un an, que ce soit ceux de Paris, de Charlie Hebdo ou du Bataclan et des quartiers avoisinants, et encore ceux d'aujourd'hui, sont vraisemblablement ou ont été commis par des jeunes de chez nous, par des jeunes européens, des jeunes qui vivent ici dans nos quartiers. Et c'est terriblement interpellant par rapport aux mesures dont nous venons de parler. J'entendais que les experts en parlaient, à savoir le PNR, la question d'échange d'informations, qui est évidemment important. Mais la question qui se pose à nous, là, très très vite, là, maintenant, ce sont des jeunes de chez nous.
Et justement, Isabelle Durand, vous qui êtes élue de Bruxelles, comment vous expliquez ça ?
Alors, comment je l'explique ? C'est difficile. Nous avons à Bruxelles, comme dans pas mal d'autres capitales européennes, une population très diverse, très multiculturelle. On a évidemment dans ces quartiers, dans certains quartiers de Bruxelles, on a senti depuis ces dernières années des changements dans l'attitude ou les revendications identitaires de ces publics, de ces jeunes, de ces familles. Moi, j'habite la fameuse commune de Schaarbeek, que vous avez du mal à prononcer, qui est une commune dont à peu près la moitié de la population est d'origine étrangère, maghrébine, turque et toute autre nationalité, plutôt du sud, si je peux dire. Et c'est vrai que ces dernières années, on a senti une plus grande quête identitaire. On a revu apparaître des foulards qui n'apparaissaient plus ou qui ne paraissaient pas les 15 dernières années. Et donc il y a eu, c'est vrai, du communautarisme. Il y a eu sans doute une insuffisante attention à la question de la discrimination vis-à-vis de ces populations. La discrimination à l'emploi, 25% de chômeurs chez ces jeunes. Des discriminations scolaires, toutes sortes de choses qui, comme d'ailleurs dans pas mal de banlieues françaises, chez nous c'est dans le centre de nos villes, chez vous c'est dans vos banlieues, se pose le problème de la pauvreté, de la discrimination et la question identitaire.
Même si, Isabelle Durand, la question de la discrimination ne suffit sans doute pas à expliquer seulement le passage à l'acte. Pour parler de la coopération, puisque ce sont aussi des individus qui circulent et qui circulent en Europe, on l'a bien vu, hein, et avec ces attentats de Bruxelles, mais aussi avec ceux de novembre à Paris, ça suppose d'avoir des échanges de renseignements qui puissent être suffisamment fluides pour pouvoir les surveiller. Philippe Ayé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui justement de cette question de la coopération, si ce n'est à une échelle européenne, au moins en tout cas une échelle bilatérale? Est-ce que c'est d'ailleurs comme ça que se passe la coopération en matière de renseignement en Europe, c'est-à-dire avant tout à l'échelle bilatérale parce qu'il n'y a pas de politique européenne commune en la matière?
Alors, la information que j'ai sur la coopération entre les services, bilatérale, trilatérale, plurilatérale, si elle n'est pas intégrée, c'est qu'elle n'a jamais été aussi intensive. Elle est quotidienne de tous les instants, des flux d'informations, des flux d'échanges d'indices sur des individus possibles, de paramètres sur leurs données se font. Les analystes sont maintenant complètement interconnectés à leurs homologues des grands services intérieurs ou extérieurs européens, et donc il n'y a pas beaucoup de doutes, il n'y a aucune ombre particulière. Il y en a une cependant, mais qui est d'une autre nature, qui est que je suis obligé, j'étais en Europe ces derniers jours, d'observer que par exemple les conséquences de l'affaire Snowden ont eu pour effet chez un certain nombre de gouvernements européens, l'Allemagne au hasard, de freiner la coopération avec l'allié américain, bien entendu, mais aussi avec d'autres États partis au système que dénonçait à juste titre d'une certaine manière Snowden. Et donc nous sommes dans un contexte politique où il y a une certaine prudence, il y a une coopération technique qui fonctionne de service à service, il y a une certaine prudence politique dans un contexte qui est celui d'avant les attentats, c'est vrai, mais qui existe toujours dans les instructions qui sont données à certains services. Et je ne parle pas de la France. Bon. Par ailleurs, la difficulté, c'est que, encore une fois, la coopération, elle est freinée par des normes nationales. Il y a des données, on cherche à accroître la traçabilité des données au nom de la protection légitime des libertés, comme en France. Et donc, l'échange qui n'a jamais été structuré en matière de renseignement se heurte à un certain nombre de contraintes de nature juridique qui pèsent de plus en plus.
Est-ce que ça se heurte aussi à une forme de souveraineté nationale, chaque pays étant soucieux justement de conserver ses prérogatives sur le sujet? Il y a eu ces derniers mois dans l'air l'idée de créer une agence européenne du renseignement. Finalement, Clémentine Forissier, ça a été abandonné parce que les États ne veulent pas trop lâcher sur ce sujet qui relève justement de la sécurité de chacun des pays.
C'est un projet qui ressort à chaque gros attentat, en fait, l'idée d'un système européen de renseignement. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que moi je me souviens, juste après les attentats du 13 novembre, on avait rencontré des diplomates de différents pays européens qui nous disaient, mais vous savez, les Français sont les premiers à faire de la rétention d'informations, donc il faut pas juste accuser les autres, quoi, il faut regarder chez soi. Donc je pense que ce qui est vrai, c'est que les bases de données, il y a des choses qui existaient jusqu'à présent, mais qui n'étaient pas forcément très utilisées. Moi, j'ai l'impression qu'en revanche, ça a changé depuis le 13 novembre. Il y a quand même, quand on en discute avec les gens qui sont au plus près, il y a quand même une progression. Il y avait notamment récemment, alors là, je ne fais que citer des confrères du Figaro, mais le président de Europol, qui est le sort de FBI européen, qui disait que récemment, il n'y avait jamais eu autant de transferts, enfin d'échanges d'informations, et notamment en provenance de la France. Donc je pense quand même que depuis les attentats du 13 novembre, les choses ont un petit peu évolué dans ce sens. Et puis, mais ce qui est clair, c'est que pour qu'il y ait c'est quand même des prérogatives nationales, ça a trait à la souveraineté, ça a aussi trait à des méthodes qui sont différentes. Alors là, vous avez avec vous un spécialiste beaucoup plus que moi, mais de ce que je comprends des différents interlocuteurs qu'on peut avoir, c'est ça. C'est-à-dire que ça veut dire aussi qu'il y a des cultures différentes qu'il faut mettre en commun, et c'est jamais évident, quoi.
Vous évoquez Europol, Philippe Hayet, depuis novembre, et puis ça a été lancé officiellement en janvier, il y a un centre antiterrorisme qui a été créé au sein d'Europol. Ça veut dire qu'il y a quand même suffisamment de structures finalement aujourd'hui qui existent à l'échelle européenne. Est-ce que la difficulté, c'est pas tant de trouver une structure ou de créer une structure qui n'existerait pas encore, plutôt que de faire fonctionner celles qui existent déjà et qui ont déjà une vocation à être transnationales?
Oui, je crois qu'effectivement l'idée de la création qui est évoquée régulièrement d'une agence intégrée européenne, alors on dit parfois la CIA européenne, ce qui est quand même pas terrible, d'autres fois le FBI européen, et relève de l'incantation, car comme vous l'avez pressenti, ces activités de renseignement, de sécurité, qui ne sont pas communautarisées, donc qui ne relèvent pas du mandat communautaire, sont des activités qui relèvent à la fois de la puissance publique, bon, mais aussi, c'est vrai, du service public qui est dû aux citoyens, de la protection des citoyens. Alors, il y a un ensemble d'acteurs. Vous citez Europol, qui n'est pas une agence de renseignement, hein, qui est une agence de coopération policière intergouvernementale. Bon, effectivement, Europol est un réceptacle possible d'informations, de renseignements, si l'on veut, dès lors qu'ils ne sont pas une grande sensibilité, qui peuvent être échangés entre les États. Ça n'empêche des relations beaucoup plus directes entre les services de police et de renseignement de chacun des États. Ce que j'observe, en effet, et ce serait intéressant d'ailleurs d'ailleurs, c'est un défi qu'on peut lancer, c'est que on publie les taux de coopération de chacun des États membres d'Europol en termes de transfert de données. Je peux vous dire que la France est effectivement en tête. Elle honore parfaitement ses obligations et de ce point de vue, elle n'est pas, contrairement à ce que j'ai entendu, elle n'est pas réticente à donner des informations. Encore faut-il que ces informations soient acquises. Le problème premier en Europe, c'est que nous avons une hétérogénéité des zones de sécurité. Il y a des zones vulnérables, nous sommes dans un espace hétérogène et il y a des capacités techniques, humaines, organisationnelles des services de renseignement et de sécurité nationale qui sont hétérogènes elles-mêmes. Et donc un service qui n'a pas l'accès aux informations ne peut évidemment rien donner. Donc je ne crois pas, je ne crois pas que créer une superstructure supplémentaire ajouterait beaucoup.
En matière d'information, justement, quelques informations supplémentaires, Sophie Delpont.
Oui, à l'instant, le parquet belge communique concernant l'attentat à l'aéroport de Bruxelles ce matin. Probablement deux kamikazes, un troisième suspect activement recherché, précise le parquet. Alors qu'en ce moment même, le procureur fédéral belge dit qu'il était encore trop tôt à l'instant pour faire le lien avec les attentats de Paris, à cet instant précis, oui.
Isabelle Durand, je rappelle, donc vous êtes à Bruxelles, députée du Parlement de la région Bruxelles-Capitale, ancienne redéputée, ancienne vice-présidente du Parlement européen. Quelques jours après les attentats de novembre à Paris, vous aviez écrit un texte dans lequel vous déploriez notamment, s'il n'y avait pas seulement ça dans votre texte, mais le manque ou la faiblesse de la coopération. Alors, déjà au niveau belge, mais aussi plus largement au niveau européen. Cette question de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, c'est quelque chose que vous avez vu ressurgir à plusieurs reprises lorsque vous étiez au Parlement européen ?
Mais la coopération et l'échange d'informations est quelque chose d'absolument central, et comme ça vient d'être dit par quelqu'un qui est certainement plus spécialisé que moi, c'est aussi la question de la compatibilité des informations que l'on échange. Lesquelles sont données ? Quel format et comment est-ce qu'on parvient à en faire quelque chose d'utile. Donc le principe, je suis bien d'accord avec ce qui a été dit, n'est pas de créer de nouvelles structures, mais d'essayer de faire de la compatibilité. Moi, j'ai été en charge précédemment, j'étais ministre des Transports, de toute la compatibilité ferroviaire. Je peux vous dire qu'en matière de sécurité ferroviaire, il y a eu beaucoup à faire aussi pour que tout simplement on travaille avec les mêmes instruments. Et donc là, c'est évidemment un champ énorme sur lequel il faut pouvoir progresser et qui dépend d'ailleurs beaucoup plus de la coopération intergouvernementale, hélas, que de la possibilité de l'Union européenne de forcer cette coopération.
Est-ce qu'il faut d'autant plus le faire, Isabelle Durand, qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est toute l'Europe qui a été attaquée et pas seulement la Belgique ?
Évidemment, et je pense que cet attentat sur Bruxelles ne visait pas spécifiquement les Bruxellois, mais donnait un signal à l'Europe pas seulement dans sa capacité à résister contre le terrorisme, mais aussi peut-être à l'Europe dans son incapacité d'être une puissance mondiale qui aussi agit sur la cause du terrorisme. Et donc là, ça nous amène aussi à tout ce qu'on peut faire hors de nos frontières, tout ce qu'on devrait faire par rapport à ce qui se passe à Raqqa, ce qui se passe dans toutes les zones dans lesquelles le terrorisme fleurit, nourrit, grandit, fait de la propagande, et de la propagande extrêmement efficace à l'égard de nos publics, de nos jeunes, les plus fragilisés d'entre eux. Donc oui, on a besoin d'une coopération certainement d'autant plus grande. J'espère qu'il ne faudra pas attendre encore un attentat pour qu'on avance dans cette matière, on avance plus ou mieux.
Clémentine Forissier, quand on suppose que c'est l'Europe qui a été visée par ces attentats, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce qu'est la politique européenne en matière de lutte contre le terrorisme et en particulier contre l'État islamique? Est-ce qu'il y a une politique commune? Il y a quelques mois, la France disait quand même qu'elle se sentait un petit peu seule sur ce sujet, que ça manquait justement de solidarité, pas seulement en termes de renseignements, mais plus largement, également au niveau militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a au moins une politique commune et un intérêt commun à combattre l'État islamique?
Bah, je pense qu'on a vu après les attentats de Paris que quand même les Français avaient obtenu, après des réunions qui ont eu lieu le 20 novembre, avaient quand même obtenu des avancées. Mais là, on se parlait plus effectivement de tout ce qui concerne l'échange des renseignements, le contrôle des citoyens européens aux frontières extérieures de l'UE, le PNR, etc. Enfin, tout un tas de sujets de coopération, de lutte intérieure, en fait, qu'on a évoqué ensemble. Et là-dessus, on peut dire que les choses, même si elles vont lentement, même si, voilà, c'est de la législation, donc ça prend du temps à adopter, etc. Il y a des éléments qui avancent. Après, sur tout le reste, franchement, on voit bien que jusqu'à présent, c'est quand même beaucoup plus difficile. À chaque fois, la France intervient directement dans certains États et ensuite arrive à Bruxelles en disant, alors je veux pas critiquer tout le temps les Français, mais en disant, on se sent un peu seul, mais c'est parce que la politique européenne de défense, c'est compliqué. Voilà, c'est quelque chose qui est très peu avancé pour le moment. Et c'est vraiment plus de l'ordre d'action d'un État qui est soutenu par un autre. On a bien vu que le Royaume-Uni était plus proche des Français sur ce genre de dossier. Donc je pense que on essaye d'avancer, mais c'est toujours très long, c'est toujours compliqué. Et puis vous savez comme moi que voilà, sur ces sujets-là, notamment je pense aux Allemands, ils sont pas très prêts à envoyer des militaires bombarder la Syrie. Hein. Donc c'est complexe, je dirais. Mais quand même, je trouve, je voudrais rebondir là-dessus, qu'on avance malgré tout. Enfin, c'est terrible de dire ça, j'espère qu'il ne faudra pas un troisième attentat pour aller encore plus loin, mais je trouve que depuis novembre, il y a eu des avancées quand même dans les discussions, et puis concrètement, des informations qu'on a, qui avaient peut-être mis plus de temps que depuis les attentats de Charlie, par exemple, parce qu'entre les attentats de Charlie et les attentats du 13 novembre, ça a un peu patiné.
Est-ce qu'une des difficultés aujourd'hui à Philippe Hayet, ça n'est pas aussi de concilier les questions de sécurité intérieure et les questions de sécurité extérieure? Et là, du point de vue du renseignement, ce ne sont pas toujours les mêmes agences justement qui entrent en jeu. Comment est-ce qu'on fait? Puisque la menace, elle est à l'extérieur, mais aujourd'hui, elle est visiblement, à l'intérieur des frontières européennes et de chacun des pays.
Bien sûr, et vous avez raison, c'est une grande différence avec les campagnes d'il y a une dizaine d'années qui étaient perpétrées par Al-Qaïda, qui était un ennemi extérieur et distant pour l'Europe, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Avec Daesh et ses émules sur le territoire européen. La distinction service intérieur, service extérieur, sécurité intérieure, sécurité extérieure, me paraît pas un problème majeur dans ce domaine, dans la mesure où la coopération se fait avec tous les services. Il y a une centralisation nationale qui fonctionne, jusqu'à preuve du contraire, dans chaque communauté. J'en connais quelques-unes et ça se passe bien dans la plupart des pays, en France y compris. C'est plutôt la question maintenant du changement de posture. Je rappelle quand même au passage, pour revenir sur les institutions européennes, que à la suite des attentats de Madrid et de Londres, 2004 et 2005, on a quand même créé un coordonnateur européen contre le terrorisme,
qui est M. Gilles de Kerckhoff.
Bon, avec très peu de moyens, il serait intéressant de l'entendre aujourd'hui, si ça n'a pas été le cas aujourd'hui, pour voir un peu comment lui perçoit la réalité de son action et de ses moyens. Bon, toujours est-il qu'en l'absence même de son intervention, le sujet pour moi qui a complètement changé, au-delà du fait qu'on est effectivement sur, j'hésite à parler d'ennemis, mais sur une menace qui est à la fois intérieure et extérieure, présente et jouant les flux, c'est la technologie. C'est qu'aujourd'hui, le sujet, c'est plus de se coopérer le jour d'après, c'est de prévenir, ce qui est extraordinairement difficile, le nouveau attentat, car nous sommes dans une campagne terroriste. C'est une campagne, on revient presque même à la définition des années 70, de l'euroterrorisme. C'est une nouvelle forme d'euroterrorisme, pas idéologique de la même manière. Et donc, il s'agit effectivement de prévenir la répétition de cela. Pour cela, c'est quand même aujourd'hui, je vois un jeu bien national en disant, il faut réhabiliter le renseignement humain, le renseignement à la papa, ça a du bon. Tout ça, d'abord, me paraît totalement éculé en ce sens que c'est la mobilisation de l'ensemble des modalités de renseignement dans des opérations qui permet éventuellement de prévenir cela. Mais il n'empêche que, et je me souviens des débats en France de l'année dernière sur la loi sur le renseignement qui est adoptée en juillet 2015, il faut anticiper. Et anticiper, ça veut dire travailler en prévention sur des métadonnées. Ça n'est pas échanger des noms, ça n'est pas ce que le commun peut percevoir, c'est anticiper sur la base d'indices. Alors il y avait ce mot d'algorithme qui était très malheureux effectivement, mais qui permet de détecter des anomalies, des rapprochements. C'est pas le PNR seul, c'est le PNR plus le fait que quelqu'un fréquente des sites religieux qui sont particulièrement extrémistes et en même temps s'est impliqué dans du trafic par exemple de drogue, etc., qui permet d'avoir des indices sur des individus en anticipation. Et donc c'est ça qui est très difficile.
D'abord, empêcher pour autant d'avoir des débats, même si effectivement il y a une urgence à lutter contre le terrorisme, et ce qui ne va pas empêcher d'avoir des débats sur la question de la protection justement des données personnelles qu'on évoquait au début de cette discussion.
Tout à fait, c'est pour ça que je me garderai bien de surréagir. Je pense, pour tout vous dire, c'est bien que ça n'est pas une réponse immédiate aux yeux de beaucoup de vos auditeurs, mais le renseignement, c'est d'abord penser. Bon, or la dernière fois que nous avons en France pensé de manière globale sur la lutte contre le terrorisme, c'est en 2005. Il y a un livre blanc qui a été commis en 2006 sur la sécurité intérieure face au terrorisme. Il est très intéressant, il est disponible sur Internet, sauf qu'il était centré sur Al-Qaïda. il faut reprendre l'effort par rapport à la nouvelle menace.
Il y a d'ailleurs une réflexion qui est en cours aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Clémentine Forissier, je ne sais pas très bien d'ailleurs où on en est, sur une nouvelle stratégie globale de l'Union pour la politique extérieure et la sécurité. Ce sont des consultations qui ont été lancées par Federica Mogherini, qui est la chef de la diplomatie européenne. Normalement, c'est un document, enfin une des consultations qui doivent aboutir en juin prochain. Est-ce qu'on sait si ça avance ?
Alors, j'ai les mêmes informations que vous. Je peux pas vous en dire malheureusement beaucoup plus, mais effectivement, normalement, on attend ce document. Alors oui, moi j'avais avant l'été, donc ça doit être en juin, j'imagine. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade.
Philippe Payet,
je ne suis pas très optimiste pour ma part, puisque je rappelle que ce document qui a été demandé à Mme Mogherini est le document que les chefs d'État n'ont pas voulu examiner en juin dernier, quand un sommet chef d'État et de gouvernement devait traiter de ces questions de politique et de sécurité commune. Donc ça risque d'être un document dont le caractère général peut décevoir.
Et une dernière question à Isabelle Durand, Sophie Delpont.
Oui, Isabelle Durand, donc vous êtes à Bruxelles hein, et ce soir à Paris, il y a deux rassemblements en solidarité avec les habitants de la capitale belge. C'est important pour vous ces témoignages de solidarité aussi dans l'espace public ?
Absolument, absolument. Et donc nous-mêmes, nous nous sommes beaucoup mobilisés au moment des attentats de Paris parce qu'on a tous été complètement bouleversés. Et donc je crois que ces signaux-là sont utiles. Peut-être peuvent-ils aussi créer une espèce de solidarité transnationale, ce dont on a grandement besoin aujourd'hui, parce que ce qui nous attend, c'est de la coopération, c'est probablement de meilleures politiques de voisinage. Rappelons-nous qu'on a eu des attentats aussi en Tunisie, sur les plages à Sousse, et donc ces gens-là aussi ont été très touchés, même s'ils sont au-delà de nos frontières. Et donc je crois que là, vraiment, ces signes font du bien aux Bruxellois, font du bien aux Européens, et peut-être ça pourrait pousser quand même à ce que les choses qu'on a voulu pousser sous le tapis puissent être reprises. Et je pense en particulier aux politiques de sécurité, aux politiques de défense, aux politiques de voisinage qui ont fait largement défaut ces dernières années.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Durand et on souhaite beaucoup de courage à tous les Belges qui nous écoutent ce soir. Merci Isabelle Durand, merci Clémentine Forissier et Philippe Hayet d'avoir participé à cette édition spéciale que vous pouvez réécouter, commenter si vous le souhaitez sur notre site internet franceculture.fr. Un grand merci à toutes les équipes et de la rédaction et de Grain à Moudre qui ont composé cette édition spéciale. Demain, on retourne, enfin en tout cas on l'espère, à un format normal. On parlera à partir de 18h20 d'économie bleue. Peut-on protéger les pêcheurs et les poissons ? Il sera encore question sans doute de politique européenne. L'émission prévue ce jour sur les petits candidats de la présidentielle, elle est reportée, elle, au jeudi 31 mars.